débat africain, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous. Le président du Mali, Amadou Toumani Touré, a renvoyé au Parlement le nouveau code des personnes et de la famille pour une seconde lecture, ce que d'aucuns qualifient de reculade de la part du chef de l'État. Adopté par une écrasante majorité de députés début août, ce texte, qui n'a rien de révolutionnaire, a été rejeté avec virulence par le Haut Conseil islamique du Mali, par certains chefs traditionnels et quelques personnalités politiques. Un front du refus aux intérêts parfois divergents, et pour évoquer ses motivations et l'avenir de ce nouveau code, nous sommes en compagnie d'Aminata Traoré, ancien ministre de la Culture, essayiste, directrice du Forum pour un autre Mali. Koumba Keita Sangaré, cadre supérieur dans une entreprise privée. Mamadou Konaté, avocat au barreau de Bamako et président de l'association TIC du droit. Et Boya Dembélé, conseiller technique du ministre de la Justice du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie d'autant plus que la plupart des personnes que j'ai conviées à cette émission, notamment des personnes qui sont pour ce nouveau code, n'ont pas voulu s'exprimer publiquement, craignant d'être stigmatisées socialement ou d'être victimes d'une fatwa de la part des chefs religieux. Alors Aminata Traoré, on a l'impression de découvrir un autre Mali. Quel enjeu revêt un code de la famille pour que le peuple malien qui a conquis ses libertés politiques se retrouve tout d'un coup paralysé?
Le code revêt des enjeux majeurs parce que il s'agit d'une réforme qui vise la personne humaine, comme son nom l'indique, c'est le code des personnes et de la famille, et qui touche une institution centrale dans l'organisation de l'existence de chacun d'entre nous. Donc autant nous sommes dans des sociétés à mutation rapide, soumises à toutes sortes de réformes économiques, institutionnelles, juridiques. Et ici, je crois que le législateur touche du doigt des réalités auxquelles les gens sont nécessairement sensibles, parce qu'on n'a pas besoin de leur interpréter ce que c'est que la famille, ce que pourrait et devrait être une famille. Donc les gens ont leur propre représentation des relations interpersonnelles au sein de cette institution. Donc le projet de société qui est sous-jacent au code n'est peut-être pas conforme à la représentation que certaines composantes de notre société se font et se font du présent et de l'avenir du pays. Et de par son importance, de par la centralité des questions qui sont en jeu, les gens ne se sont pas sentis concernés ou ont eu le sentiment que le code est porteur de bouleversements qui ne sont pas prêts à assumer, peut-être qui font débattre.
Que le code soit porteur de bouleversements, combat qui est à Sangaré, est-ce que cela explique la peur que les gens ont de s'exprimer? Parce que c'est ça qui a frappé les observateurs, c'est cette peur de s'exprimer publiquement.
C'est vrai qu'il a été observé une certaine réticence, en tout cas, à parler publiquement du code, même si lors de conversations privées ou dans les salons, les gens en discutaient volontiers et se sentaient véritablement concernés. Mais effectivement, à un moment donné, personne ne voulait, en tout cas c'était pas politiquement correct de prendre position, si je puis m'exprimer ainsi. Et bon, ça m'a d'autant plus frappé et étonné en tant que malienne, quand ayant baigné dans une tradition de dialogue et de tolérance prônée en tout cas, de voir que on avait peur d'exercer notre droit à la liberté de parole et d'opinion dans un Mali où on a conquis justement ces droits-là de haute lutte. Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais bon, à mon sens, je pense que bon, c'est des choses qu'il faut dépasser et prendre toute sa part au débat, comme le dit si bien Madame Traoré, c'est quelque chose d'important pour notre avenir.
Oui, Mamadou Konaté, finalement, quel est l'essence de la controverse? Est-ce qu'elle est d'ordre religieux, d'ordre politique, d'ordre historique, culturel?
D'entrée, ce que je dis, c'est qu'on peut s'interroger qu'un texte législatif aussi important, parce qu'il s'applique justement aux relations interpersonnelles, qui soit arrivé à maturation jusqu'en phase de votation au niveau du Parlement.
Ça fait une dizaine d'années quand même que vous essayez d'élaborer ce code, non?
Oui, non, ça fait même 15 ans que l'on essaie d'élaborer ce code. Finalement, on a pensé que ce code était arrivé à maturation, que le Parlement, qui est quand même la représentation nationale, avait mis son sceau final et qu'il restait juste que la signature du président de la République pour que ce code-là puisse, à la limite, connaître une vie, une existence. Donc aujourd'hui, cela pose justement le problème de notre système démocratique, de notre processus démocratique, qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité sociale de notre pays. Ce qui peut expliquer aujourd'hui que d'un point de vue technique, si on ne comprend pas que ce code soit renvoyé en seconde lecture, d'un point de vue politique, on peut le comprendre parce que la bravade était assez importante et assez forte. Ça veut dire que, comme cela a été dit, que malgré que ces personnes qui se sont opposées à la mise en œuvre de ce code-là aujourd'hui sont des personnes qui, pour la plupart, ont pris par une part active au débat du code, ne se sont toujours pas senties par rapport à ce que ce code prévoyait comme dispositif.
Alors, il y a quand même un problème là, parce qu'il y a des élus qui ont été élus par ce même peuple, il y a eu des discussions, il y a eu des débats avant le vote au Parlement, et une fois que le Parlement a voté majoritairement pour ce texte, le texte est rejeté par la rue.
Mais parce que simplement, il y a une inadéquation patente entre la rue, le peuple, ceux qui en sont les représentants. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que cela pose un problème du point de vue du processus politique, parce qu'un texte législatif a connu sa plus grande maturation et rejeté. Donc d'un point de vue technique, ce n'est pas compréhensible. D'un point de vue politique, ça l'est, parce que le peuple qui a parlé, la rue qui a parlé, se sentait suffisamment forte aujourd'hui pour arrêter ce processus, et il a arrêté.
Oui, Boya Dembélé.
Peut-être que je partage, mais pas de la même manière. Ce que moi je puis dire par rapport à cela, c'est que c'est un texte majeur, effectivement, de la Troisième République, qui a suivi tout un processus de concertation. Toutes les composantes de la société malienne ont été mises à contribution et ont participé activement aux travaux. Depuis 1986, les débats ont commencé, mais il y a eu des concertations depuis les années 2000 jusqu'à la synthèse nationale et jusqu'au niveau de l'Assemblée. Donc les débats étaient vraiment ouverts à tous et tous ont assisté pratiquement à ces débats-là. Et il était vraiment étonnant que vraiment, juste après l'adoption, que la rue puisse essayer de contester ce code-là. Moi, je mets ça sur le compte peut-être de l'incompréhension. Il y a l'incompréhension d'abord du texte actuel, parce que les gens n'ont pas lu. Pour la plupart, ceux qui ont assisté aux travaux, je pense qu'ils n'ont pas fait le feedback. Ils devaient faire le compte-rendu à leurs militants ou à ceux qui les ont quand même portés au niveau de ces organisations-là, ils devaient faire le compte-rendu fidèle à ceci. Bon, souvent, ils n'ont pas eu le courage de pouvoir expliquer en clair ce qui s'est réellement passé dans les travaux de commission. Il y a ce pas-là. Il y a le fait aussi de l'ignorance des textes antérieurs. Parce que beaucoup de fois, les gens ont pensé qu'on innovait dans certains domaines, alors que c'est des choses qui étaient déjà là. La laïcité, par exemple, était déjà là de tout le temps. Le consentement au mariage était là de tout le temps. On n'a pas innové dans ces domaines-là. Mais on a l'impression qu'on est en train de faire du nouveau. Ça a toujours été comme ça depuis 1962. Le législateur a prévu des dispositions dans ce domaine-là et qui étaient appliquées, plus ou moins. Mais subitement, les gens ont pensé qu'on innovait dans ce domaine-là et qu'on ne les a pas consultés pour ce faire-là. Donc, il y a eu problème de communication et les représentants des différentes associations ou organisations qui ont été mandatés pour participer aux travaux de concertation, ces gens-là n'ont pas expliqué à ceux qui les ont mandatés ce qui s'est réellement passé et pourquoi certaines dispositions ont été retenues, d'autres n'ont pas été retenues.
Oui, oui. Alors on va revenir à certains points de ce code, mais encore une fois, là c'est la question que je pose à Aminata Traoré. On a vu le Conseil islamique du Mali en première ligne, ce qui fait que pour les observateurs étrangers, ceux qui regardent, on les l'impression que le Mali, en tout cas la mouvance islamique, a dominé le champ politique jusqu'à imposer sa loi.
Je crois que les associations musulmanes sont bien organisées, se sont manifestées et ont fait preuve d'une capacité de mobilisation et d'interpellation qui pourrait faire rougir d'autres composantes de la société civile qui parviennent difficilement à mobiliser 1000 ou 2000 personnes, la plus forte raison, et remplir ce stade. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la dimension religieuse, tenir compte du fait que...
Mais Aminata Traoré, est-ce que cette dimension religieuse, d'accord, tous les Maliens sont musulmans, ou presque, est-ce qu'il faut fermer les yeux là-dessus? Parce qu'on a l'impression que c'est elle qui a pesé quand même dans la balance.
Pas du tout. Moi, mon sentiment est que nous sommes en réalité dans une société bicéphale, et même plus, parce que nous avons... Prenez l'exemple du mariage dont il est question dans le code. Et quand nous nous marions ici, il y a le mariage religieux, le mariage civil devant l'État, comment on dit, l'officier d'État civil, et puis il y a le mariage traditionnel. Quand les gens ne se sont pas mariés trois fois, ils ont le sentiment que quelque chose manque à ce processus. Donc, nous fonctionnons, nous sommes une société profondément musulmane qui pense que le mariage doit être validé. Et donc, pour être officiel, il faut le mariage officiel, mais ensuite, on aime bien passer par le mariage dit traditionnel aussi. Donc, c'est cette complicité qui fait que nous avons, c'est toute la question de mon point de vue, ce n'est pas une question d'interprétation ou d'incompréhension. C'est une question de représentation de nous-mêmes. Et quelle est l'image que nous nous faisons de nous dans une société malienne en pleine mutation? Et qui est qui? Qui veut quoi? Qui veut quel statut dans l'institution familiale? Alors je pense que quand les juristes nous diront précisément les points de désaccord, on pourra commenter à ce moment-là. Qu'est-ce qui a dérangé? À partir de quel moment les associations musulmanes ont eu le sentiment que l'on touchait à des questions essentielles et que...
Aminata Traoré, ce qui a étonné justement aussi, c'est qu'on n'a pas trouvé en face de ces associations musulmanes des intellectuels comme vous-même pour rééquilibrer les positions. Parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Avec tout ce que le Mali compte de gens progressistes, comment ça se fait qu'un code qui accorde pas mal de droits aux femmes qui n'existent pas jusque-là, comment ça se fait que des grandes voix comme la vôtre ne les entend pas?
Mais attendez, moi je sais ce que je pouvais, je crois que je fais partie des gens qui se sont exprimés, je suis passée sur des radios. Moi je ne pense pas qu'il s'agissait pas d'aller à l'encontre de ce que les musulmans, en tout cas de contester ce que les musulmans avaient reproché au code. Moi je me suis mise à l'écoute des arguments des musulmans, je me suis rendu compte du fossé. Je voulais mesurer le fossé entre le pays réel et le pays légal. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est notre propre capacité de nous mettre à l'école, à l'écoute du Mali tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il y a des problèmes. Mais le code est l'occasion aujourd'hui de mettre à plat des évolutions que nous n'avons pas suffisamment questionnées.
Mais alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce code?
Écoutez, moi je pense que il y a la question du mariage, la légitimité du mariage religieux. Il y a la question, l'un des aspects par exemple qui m'a frappé, c'est la participation d'une femme salariée par exemple qui pourrait ne pas participer aux dépenses de la famille, que cela peut être cause de divorce. Et c'est un code.
Le mariage était fixé à 18 ans, alors qu'avant on pouvait marier les filles à 12, 13, 14 ans, oui?
C'est un problème, c'est un sérieux problème. On ne peut pas continuer à marier les filles à l'âge de avant 14, 15 ans. Et on sait qu'on les expose au moment de l'accouchement à des problèmes d'une extrême gravité. On le sait même avec le recul. Mais c'est clair que dans certaines localités encore, au niveau de certaines ethnies, les gens se disent que c'est la puberté qui compte. Et à partir du moment où elle est en âge de se marier, si vous ne la mariez pas, vous allez vous retrouver avec un enfant naturel sur les bras. Ça, c'est l'argument des musulmans.
Combat qui est à Sangaré.
Il faut voir que ce code-là, quand même, il est certes perfectible. Il y a parfois effectivement des incohérences quand, d'un côté, le mariage religieux n'est pas sanctionné par un document comme le voudraient par exemple les associations musulmanes, alors que d'autre part, je pense que le code n'interdit pas de l'autre côté la polygamie. Donc il y a quand même quelques incohérences. Mais globalement, je pense que ce code constitue une avancée notable pour notre société. Et quand on revient notamment sur l'exemple du mariage des filles, une fille qui se marie à 18 ans, c'est à mon avis autant de chances de pouvoir la scolariser, en tout cas jusqu'au niveau du baccalauréat. Et il est prouvé par les professionnels de la santé que plus le niveau de scolarisation de la femme est élevé, plus elle suit forcément les conditions d'hygiène et de santé de ses enfants. Oui. Et cela a forcément un impact sur la réduction de la mortalité infantile. Donc c'est vraiment des sujets de société. Donc il faut que les gens se mobilisent autour. À mon avis, comme le disait M. Dambélé tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un déficit de pédagogie et de communication. Parce que si on revient là-dessus, c'est effectivement, ce n'est pas un document absolument révolutionnaire. Et il y a des choses dedans qui étaient déjà dans l'ancien code. Donc, peut-être que nous autres intellectuels, on a peut-être ronronné un peu, alors que de l'autre côté, les autres étaient capables de se mobiliser pour défendre leur point de vue. Donc, je pense qu'il va falloir que chacun, à son modeste niveau, fasse cet effort pour expliquer à son entourage en quoi ce code est bon, en quoi il est porteur de progrès pour la société.
Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de gens qui soient convaincus de ça. C'est la question qui est posée Mamadou Konaté. Quand on compare ce code à celui de certains pays où l'avortement est reconnu, où l'excision est interdite, où la polygamie est interdite, on se dit ce code vraiment n'est pas exceptionnel. Et pourtant on sent que même des gens, des juristes disent oui, il ne faut pas aller contre la volonté du peuple.
Mais bien sûr que c'est d'une évidence absolue. Il s'agit de lois et de ce quoi, de lois sociales qui s'appliquent à des individus. Plus que jamais, dans des circonstances comme celle-ci, il faut avoir l'adhésion des gens. On ne peut pas vouloir le bien des gens contre leur gré. C'est une question d'adéquation de la loi par rapport aux gens auxquels cette loi s'applique. On a parlé de
Mamadou Konaté, quand on voit ce type de loi, partout où elles ont été adoptées, ça n'a jamais été des lois adoptées avec l'adhésion de tout le monde. Rappelez-vous, rappelez-vous la loi sur l'avortement avec Simone Veil en train de pleurer au sein de l'Assemblée nationale française. Le peuple français n'était pas prêt pour l'IVG.
Bien sûr, madame, vous êtes en train d'évoquer aujourd'hui des situations qui se déroulent dans des contextes dits de démocratie. Je dis aujourd'hui qu'en République du Mali, il faut qu'il y ait une adéquation parfaite entre au moins la dominante sociale et la loi qui s'applique à cette dominante sociale. Je suis dans un contexte où je ne dis pas qu'il faut l'adhésion de tout le monde, mais il faut l'adhésion de la majorité des gens. On vous a indiqué tout à l'heure qu'il y a eu un déficit de communication, que les uns et les autres n'ont pas assumé toute la prérogative, l'obligation des fonctions qui leur incombait, mais la faute incombe à qui ? La faute incombe essentiellement au pouvoir public. Je pense aujourd'hui que l'on s'est mépris par rapport à la réaction des gens de la rue. On dit des gens de la rue, mais c'est des composantes sociales importante. La preuve, ils sont arrivés aujourd'hui à obtenir au moins de relire cette loi dans un système où la relecture se comprendrait assez difficilement. Moi, je vous dis simplement que sorti de la colonisation en 1960, notre état civil, notre droit de la famille, notre droit des personnes a été fondamentalement régi par des dispositifs qui ont été calqués sur d'autres lois. Ça n'a jamais pris la réalité sociale. Et là-dessus, je ne sais pas si on est à la recherche d'un Mali autre, on est à la recherche au moins de nous-mêmes sur cette question. Juste des exemples par rapport aujourd'hui à ce qui paraît être fondamentalement contradictoire. Et je rejoins plus ou moins Aminata Draman sur la question, la contradiction n'est rien d'autre que religieuse. La preuve, la contradiction a été portée par des associations qui, pour la plupart, se réclament de ces obédiences religieuses. Fondamentalement aujourd'hui, la question du statut de la femme est posée. Fondamentalement aujourd'hui, le statut de l'enfant né hors mariage
oui,
est posé.
Naturel, oui.
Fondamentalement, le rôle et la mission des ministres du culte religieux, et quand je dis culte religieux, ce n'est pas seulement musulman, c'est aussi de l'autre religion chrétienne, est posé. Alors sur l'ensemble de ces points, moi-même j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire au moins il y a des aspects sur lesquels il faut que l'on soit regardant. Madame, lorsque vous êtes dans un pays où il n'y a pas un seul décès, où il n'y a pas une seule naissance, où il n'y a pas un seul mariage, qui se déroule dans le pays sans qu'un ministre du culte soit présent, est-ce que pendant longtemps on peut nier cette réalité sociale? C'est là-dessus que j'ai dit que ici, tout le monde a tant besoin du marabout pour ne parler que de la religion musulmane, parce que dans d'autres religions, ça existe aussi l'équivalent, mais en le disant, je pense aux deux religions, qui ne peut pas se passer du rôle du musulman, du marabout, pour le mariage, pour le décès et pour les naissances.
Oui, alors la prédominance du fait religieux ou du poids religieux sur ce débat autour du code de la famille, on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Mélane Marco, une pause pour le journal.